partenaire de Fréquence Mistral, AISMT 04 du réseau Présence PACA Corse, votre partenaire santé au travail, présent à vos côtés. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la première émission, il y en aura 7, dédiées à la santé et à la prévention dans le monde du travail. Ces programmes sont réalisés en partenariat avec l'AISMT 04. Stress, risques professionnels, conditions de travail, santé mentale ou encore prévention des accidents, ces sujets occupent une place de plus en plus importante dans la vie des entreprises et des salariés. Alors pour mieux comprendre les enjeux de la santé au travail et découvrir les missions des acteurs qui accompagnent les employeurs et les travailleurs au quotidien, nous recevons aujourd'hui l'AISMT, le service de prévention et de santé au travail des Alpes de Haute-Provence. Notre invitée, Sandrine Magnan, directrice générale. Bonjour madame.
Bonjour et en tout cas merci à Fréquence Mistral de nous laisser l'opportunité justement d'expliquer le bénéfice des services de prévention et de santé au travail, notamment dans notre département.
Ben c'est nous qui vous remercions d'être là aujourd'hui sur notre antenne. Alors ensemble nous allons parler prévention, accompagnement des salariés, amélioration des conditions de travail et défis du monde professionnel actuel. Alors aujourd'hui, la première mission, c'est plutôt une présentation générale de votre organisme, de cette association. Et il va y avoir des thèmes spécifiques qui vont être développés tout au long des prochaines émissions, c'est ça ?
Exactement. C'est vrai que le nom médecine du travail qu'on connaît depuis plusieurs décennies a énormément évolué, puisqu'aujourd'hui on parle de prévention et de santé au travail de manière large. C'est vrai que les sujets des conditions de travail, je pense que c'est un sujet important qu'on entend sur plusieurs ondes. On parle d'augmentation des arrêts maladie, on parle de la souffrance au travail, on parle lors du dernier rapport comparatif des conditions de travail au niveau européen que la France est un petit peu dans les catégories plutôt moyennes en tant que telle. Et c'est vrai que si on veut avoir un peu de l'ambition pour notre pays, pour notre région en termes d'économie, je pense que parler des conditions de travail qui permettent aussi de fidéliser les collaborateurs, de les développer en termes de compétences pour justement réussir les enjeux de demain. Je pense que c'est vraiment un sujet du jour et peut-être important de réexpliquer, autant pour les entreprises que pour les salariés, quels bénéfices en effet il peut avoir de ce service-là qui est existant, certes obligatoire, mais qui peut avoir une utilité vraiment en termes d'efficacité et de performance de l'entreprise.
Alors pouvez-vous nous présenter l'AISMT 04 et son rôle justement dans le département ?
Alors en effet, l'AISMT 04 est d'abord une association de loi 1901, beaucoup de gens l'oublient. Ce n'est pas une institution, j'allais dire, publique. C'est en fait un groupement d'employeurs locaux de l'ensemble des Alpes de Haute-Provence. Donc nous sommes paritaires, c'est-à-dire que le conseil d'administration est représenté par des employeurs, des chefs d'entreprise, désignés par les organisations patronales que sont le MEDEF, la CPAME et l'UDP, mais aussi des organisations salariales comme la CGT, la CFDT, FO et la CFE-CGC. Donc c'est vraiment les utilisateurs en fait qui sont pilotes de cette association en tant que telle. Donc aujourd'hui, nous avons une dimension qui est départementale, qui est locale, qui nous permet en effet, un, d'être proche des entreprises et de la réalité du territoire, puisqu'on a vraiment des caractéristiques, hein, que ce soit sur le sud du département au niveau de Manosque, et certains types d'industries qui sont vraiment des pépites dans notre département, mais aussi avec les problématiques, enfin pas les problématiques, la caractéristique aussi des stations de ski, de l'activité saisonnière de notre département, qui plus est en début de cette saison estivale.
Alors quelles sont les principales missions d'un service de prévention et de santé au travail ?
Alors déjà, avant d'arriver sur les trois missions que nous avons, c'est quoi finalement la finalité oui. véritable en fait d'un service de prévention et de santé au travail ? Alors c'est vrai que le code du travail a des manières d'expliquer les choses, qui est l'absence d'altérité du fait du travail, de son état de santé, c'est-à-dire que le travail ne doit pas dégrader un état de santé du travailleur en tant que tel. Mais plus globalement, c'est comment accompagner le chef d'entreprise à faire une transformation réelle de ses conditions de travail pour que ses salariés puissent travailler dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment aussi un enjeu, j'allais dire, sociétal. Donc ça, c'est la grande mission globale. Et pour ça, on a trois piliers pour permettre de le faire. Donc un, on assure ce qu'on appelle le suivi de l'état de santé des travailleurs. Globalement, on fait à peu près 17 000 visites par an, hein, pour comprendre un petit peu le volume que nous faisons. Et c'est vrai que les gens, quand ils viennent voir un médecin ou un infirmier, des fois, ils se posent la question, mais à quoi ça sert ? Parce que c'est vrai, quand on va faire une visite médicale périodique ou à l'embauche, on ne vient pas avec un problème de santé. Quand on va voir son médecin traitant, j'ai un problème de santé et je veux qu'il m'apporte là immédiatement une solution. Ce suivi de l'état de santé, en fait, nous, c'est une sorte de baromètre. Ça nous permet, en fait, de voir si les évolutions ou les changements de l'état de santé, c'est de mesurer, en fait, les effets véritablement des conditions de travail sur l'état de santé, puisqu'on va poser des questions sur le poste, sur l'état de santé. Je prends toujours un exemple, hein, sur une chaîne de fabrication. Si vous avez 10 salariés qui se plaignent, en effet, j'allais dire des douleurs d'épaule, on peut présupposer que ce sont donc les conditions de travail qui sont certainement responsables de cette usure de l'épaule. Si par exemple, sur les 10, il n'y en a qu'un seul qui se plaint parce qu'en plus, il a une activité physique sportive qui est le tennis, ben on va peut-être dire que ça, c'est une situation plutôt personnel, de santé publique, et ça, ce n'est pas forcément notre rôle. Mmh. Donc nous, ça nous permet d'avoir un indicateur, puisque nous voyons tous les salariés d'une même entreprise. Donc ça donne un élément au niveau du médecin du travail, avec la collaboration de nos infirmiers. Ça, c'est le premier pilier que tout le monde connaît. Le deuxième pilier, parce que nous, on soigne les conditions de travail. On ne soigne pas le problème de genou. Mmh. On va faire à ce que la personne, même si elle a une problématique de genou, j'allais dire, peut continuer à travailler. Donc la deuxième action, c'est la prévention en entreprise. Je rappelle que la prévention des risques professionnels se fait et se joue et se gagne au sein de l'entreprise. Et là, on est là pour conseiller l'employeur à comment améliorer les conditions de travail, justement du fait que des éléments que nous avons sur l'état de santé des salariés. Donc là, on a plusieurs, bien sûr, spécialités, puisqu'il y a plusieurs risques professionnels. Donc on va dans l'entreprise, on fait un diagnostic, on émet des propositions, qu'on discute aussi avec l'employeur en fonction de ses capacités, de ses moyens, de l'urgence ou pas aussi des choses. Et on va l'accompagner. On le conseille aussi s'il existe des possibilités de financement pour pouvoir réaliser véritablement ces actions. Et avec le suivi, on va voir ou pas si ces actions ont vraiment porté un bénéfice réel sur l'état de santé. Et le troisième pilier, qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le maintien en emploi. Globalement, ça concerne à peu près 9% des visites que nous faisons à l'année. Donc, c'est quand même important. On va parler de 1700, 1800 personnes, en fait, à l'année. C'est quand j'ai une problématique de santé, quel que soit mon âge, et des fois, ça vient de plus en plus jeune, il ne faut pas le croire, mais comment je fais pour continuer à travailler ? L'idée, c'est en effet trouver soit des solutions dans l'entreprise, d'aménagement de poste ou de reconversion au sein de la même entreprise, avec nos partenaires du maintien en emploi, qui est la CARSA, de l'assurance maladie service médical, Cap Emploi, et les AGFIP en tant que financeurs, ou travailler sur une reconversion professionnelle, ce qu'on appelle le maintien vers l'emploi, et trouver une autre solution d'emploi, où là, on a aussi les mêmes partenaires, plus aussi France Travail avec qui nous collaborons.
C'est vrai que c'est un volet fondamental et vous y répondez. Combien d'entreprises et de salariés, Milouit, vous disiez, accompagnez-vous actuellement sur notre territoire ?
Alors sur notre territoire, c'est un petit peu constant, on suit 3800 établissements pour situer l'importance de notre action.
Ça, c'est
qui
conséquent.
Qui représente à peu près 30 000 salariés de droit privé, voilà.
Ah oui, c'est assez conséquent, effectivement. Après, il y aura une émission spéciale avec une thématique spéciale. On va parler un petit peu prévention et les risques professionnels. Quels sont aujourd'hui les risques professionnels les plus fréquents que vous observez ?
Alors, c'est vrai que dans notre action, on mesure les choses. Hein. Souvent, on croit que les services de prévention et de santé au travail, ce n'est juste écouter qu'une partie. Mais justement, grâce à nos actions de diagnostic, nous avons une bonne visibilité, en effet, des risques professionnels les plus présents. Sachant que, bien sûr, ça dépend des secteurs d'activité qui sont présents dans notre territoire. Mais globalement, le premier, le principal, c'est tout ce qui va toucher les fameux troubles musculo-squelettiques en tant que tels, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la manutention, tout ce qui est lié aux gestes répétés. Ça, c'est le principal. Le deuxième risque que nous voyons, et qui plus est dans notre département, qui est un très grand département, ce sont les risques routiers. Le troisième que nous voyons aussi, c'est ce qu'on appelle les risques organisationnels et relationnels, puisqu'on travaille ensemble, ce qu'on appelle souvent les risques dits RPS, qui sont liés à l'organisation et à la qualité de relationnel qu'on peut avoir en interne ou en externe au niveau de ses clients. Il y a aussi un sujet qu'on voit souvent sous-estimé par les entreprises, qui est le risque chimique, que ce soit juste des produits chimiques dits dangereux ou des produits chimiques dits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, où en fait il y a une sous-évaluation de ce risque-là, puisque ça touche en fait plusieurs types de métiers. Voici à peu près les quatre grands piliers en fait des risques professionnels que rencontrons.
Vous mettez des choses en action pour améliorer les conditions de travail, bien évidemment.
Tout à fait. Mmh. Donc sur ces quatre types de risques, on a en plus des spécialités. Un service de prévention et de santé au travail, c'est donner l'accès à des compétences expertes dans le cadre d'un forfait à des PME et TPE. C'est ça qu'il faut aussi se rappeler. Donc pour tout ce qui est les questions justement de manutention ou de gestes répétés, nous avons des compétences généralistes et expertes, notamment avec des ergonomes, qui permettent de faire un diagnostic en prenant aussi en considération le facteur aussi économique. Le but du jeu aussi, nous, c'est de permettre la performance de l'entreprise tout en préservant la santé au travail. Donc en effet, c'est des analyses vraiment des situations réelles de travail. On va vraiment observer, on va vraiment regarder. Des fois, on peut avoir aussi des appareils de mesure pour vérifier justement la charge cardiaque, par exemple dans la manutention, ce qu'on appelle de la cardiofréquencemétrie. On commence à utiliser des termes techniques. Pour la question du risque chimique, nous avons en plus, au-delà bien sûr des compétences de nos professionnels de santé comme nos médecins, un ingénieur qui permet de faire l'évaluation du risque chimique en tant que tel, avec des outils qui permettent justement de prioriser, d'analyser les types d'ingrédients et de produits, d'en connaître les effets et de pouvoir aussi proposer des mesures de protection ou de substitution de ces produits-là. En ce qui concerne les risques, ce qu'on appelle RPS ou organisationnels et relationnels, nous avons aussi une équipe avec une psychologue du travail qui permet pareil de faire un diagnostic et de faire des propositions concrètes. Comment l'entreprise peut améliorer son organisation pour éviter les questions soit de charge de travail, d'intensité de travail qui peut exister. Sur le risque routier de manière générale, alors on a moins besoin d'avoir une spécialité en tant que telle, mais qui reste quand même un risque important et grave. Nous accompagnons en effet l'employeur à bien d'abord évaluer son risque en fonction de la gravité et de la fréquence, de proposer aussi des actions d'organisation pour limiter ce risque et des actions de sensibilisation aussi pour les salariés.
Vous sensibilisez les salariés aux risques liés à leur activité. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions de prévention réussies justement ?
Alors oui, je vais en citer trois. Mmh. Alors l'une, elle a fait l'objet d'un film, donc je vais me permettre aussi de citer le nom de l'adhérent parce que c'est important.
Bien hein, volontiers.
Sur notre chaîne YouTube, je fais un petit peu la promotion. C'était une action qui a été menée avec la biscuiterie de Fort-Calquier, justement avec une ergonome, puisqu'il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de gestes répétés en tant que tels qui créent en effet une usure, un certain absentéisme en tant que tel. Donc, vu avec les problématiques exposées de l'employeur, on a pu faire donc toute une analyse qui a permis en fait d'acheter aussi un matériel financé par la CARSAT en tant que tel et qui a vraiment limité la pénibilité et qui a permis véritablement de concilier l'exigence de fabrication et de la cuisson que finalement la manipulation en tant que telle. Et c'est vrai que les salariés ont vraiment exprimé, on le voit dans ce film, finalement la facilité en fait de pouvoir, au-delà d'avoir manipulé à chaque fois les plaques, etc., ça a été vraiment quelque chose de réussi qu'on a mis en valeur au travers de ce film. On a aussi un autre exemple sur un tout autre sujet, puisque je n'ai pas forcément parlé du bruit en tant que tel, qui existe sur certains secteurs d'activité. Pareil, on a fait un podcast, donc je me permets toujours de citer le nom de l'entreprise, qui est donc un restaurant, qui est donc Le Vinguet à Sisteron, qui avait une problématique. En effet, on ne dirait pas comme ça, mais la restauration
c'est
peut
bruyant.
Être très bruyant. Et même si ça peut être gênant pour les clients, pour les salariés qui sont 7 heures, 8 heures par jour, ça peut être en effet gênant. Donc on a fait toute une mesure de bruit, nous sommes équipés à pouvoir véritablement analyser, souvent ce sont des études qui durent 3 fois 8 heures, c'est-à-dire vraiment le salarié, on l'équipe d'un appareil qui nous permet de mesurer et on regarde dans quelle situation précise de travail il y a des pics ou pas de bruit, on lui a fait un rapport, on a fait des propositions et ça a permis au travers de ce rapport, en tout cas à cette entreprise, à pouvoir obtenir des financements parce que sinon en fait il n'obtenait pas éventuellement auprès des financeurs l'argent pour pouvoir faire les travaux nécessaires. Donc le fait que ce soit une préconisation du service de prévention et de santé au travail, ça lui a permis justement d'enclencher véritablement les actions. Et j'ai un autre sujet aussi. Alors là, je n'ai pas demandé l'autorisation de l'entreprise, donc je ne vais pas forcément la citer, mais c'est, je pense, une très belle réussite. C'est sur un autre sujet, c'est sur le risque chimique. Donc, c'est vrai que le médecin s'était rendu compte, j'allais dire justement, des effets sur la santé par rapport à certaines expositions. L'entreprise a finalement réussi à s'engager là-dessus, mais au début, c'est vrai qu'elle ne voyait pas trop le pourquoi, finalement. Pourquoi je dois le faire en tant que tel et quel était mon intérêt en tant qu'employeur de pouvoir le faire. Et en fait, le fait d'avoir travaillé avec eux, d'avoir pu mettre en place des mesures de protection et de prévention sur le risque chimique, ça a eu des effets secondaires positifs auxquels l'employeur ne s'attendait pas. La première chose, c'est qu'il avait des difficultés en effet de recrutement. Il avait beaucoup d'intérimaires, mais qu'il n'arrivait pas à consolider en CDI parce que ces personnes refusaient, en fait, au niveau des conditions de travail. C'est un employeur qui fait des satisfactions de ses salariés. Il a pu voir une augmentation, finalement, des résultats. Et ces résultats lui a permis de décrocher des gros contrats avec de très grosses enseignes parce que, justement, ces gros donneurs d'ordre vérifient les conditions de travail de ses sous-traitants. Donc, en fait, il a eu des bénéfices secondaires en disant, finalement, en travaillant sur la qualité de mon emploi, de mes conditions de travail, j'ai pu fidéliser certaines compétences et j'ai pu aussi obtenir de nouveaux marchés parce que certains gros clients sont sensibles à ces sujets-là.
Oui, on comprend bien qu'un salarié qui va bien est un salarié qui travaille bien.
Oui, tout à fait. Alors, et qui reste aussi.
Et qui reste. Alors, bon, là, vous avez évoqué justement des entreprises avec des employés. On pense souvent à des grandes structures ou plus petites. Mais vous, vous occupez, vous encadrez également, et ça c'est très important, vous étiez venu en parler sur le plateau l'année dernière de Fréquence Mistral, des auto-entrepreneurs, alors eux qui sont sur tous les fronts, ils sont seuls, et par conséquent ont une charge mentale importante, et puis il y a aussi des risques liés à leur métier aussi. Hein.
Oui, en effet, c'est vrai que, alors, plus largement que les auto-entrepreneurs, on va dire le travailleur indépendant ou chef d'entreprise oui. De manière générale. Donc c'est vrai que le chef d'entreprise, qui est souvent un optimiste ou un travailleur indépendant, on oublie que les travailleurs indépendants dans le département, c'est à peu près 7 000 à 8 000 personnes, hein, pour quand même repositionner en tant que tel. C'est vrai que la question de la santé au travail, ce n'était pas une obligation en tant que tel, et donc ils pensent que ça ne les concerne pas. Or, souvent, même qu'on est chef d'entreprise, hein, gérant dans le BTP, on est souvent ouvrier patron.
Exactement.
Donc ce travailleur indépendant ou cet auto-entrepreneur a exactement les mêmes risques qu'un salarié. Si je suis plombier chauffeur à mon compte, j'ai exactement les mêmes risques professionnels. Et en plus, j'ai une charge qui m'est propre de chef d'entreprise, ou même si on est auto-entrepreneur ou travailleur indépendant, qui est la gestion de mon business, hein, de manière générale, qui est de trouver des clients, qui est gérer sa trésorerie, ce genre de choses. Donc, il y a aussi des risques vraiment liés là-dessus. Et c'est vrai, il faut savoir que depuis 2021, à la demande notamment des unions patronales, qui a demandé à ce que, justement, les services de santé puissent s'ouvrir sur volontariat, bien sûr. Hein, il faut respecter la liberté du chef d'entreprise et du travailleur indépendant de pouvoir, en effet, bénéficier aussi des conseils de suivi en prévention de son propre état de santé et des conseils pour améliorer aussi ses conditions de travail. Et à ce titre-là, on a en plus, puis c'est pour ça qu'on était venu en parler l'an dernier, on a des mesures d'urgence gratuites aussi pour des cas particuliers que nous avons, qui soient soit des pathologies graves, soit justement des problématiques d'épuisement professionnel. Là, voilà, on fait des prises en charge rapides, immédiates et d'urgence et gratuites.
Concernant le suivi médical et l'accompagnement, comment se déroule le suivi médical des travailleurs?
Oui, donc la fameuse visite médicale dont voilà. Certains émettent beaucoup de sujets. Alors, il faut savoir aussi que les services de santé ont beaucoup évolué, hein, et notamment sur ces 20 dernières années, poussés notamment par la réglementation. Mais là, pour une fois, des fois, certaines lois sont des fois pertinentes, et justement, pour travailler là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on est en rôle de prévention, c'est-à-dire que la personne ne vient pas forcément « j'ai mal à l'épaule, j'ai une tendinite, j'ai ceci », comme un médecin traitant, comme je vous l'ai dit. Donc, en fait, on va scanner, j'ai envie de dire. On va d'abord évaluer le poste. Quelles sont ses conditions de travail? Donc, en effet, il y a une partie, on fait parler le salarié de comment il travaille réellement et comment lui il perçoit. On va faire, bien sûr, aussi un point sur son état de santé, parce que le but du jeu, c'est de relier les deux. Entre j'ai des problématiques de santé, qui peut avoir pas du tout de lien avec le travail, et celles qui vont avoir les liens en tant que telles. En fonction de certains types de métiers, on va faire ce qu'on appelle les examens complémentaires.
Donc vous adaptez le suivi selon les métiers ou les risques professionnels?
En fait, on adapte le suivi en fonction des critères objectifs, qui est l'âge, qui est les conditions de travail, et qui est les risques professionnels. Donc en effet, on ne va pas gérer de la même manière un conducteur poids lourd de transport scolaire, comme on va dire une secrétaire comptable ou comme on va dire un employé de libre-service dans les commerces et les grandes surfaces. Donc ensuite, on va compléter certains types d'examens complémentaires par rapport à certains risques. Donc en interne, on peut faire en effet, notamment pour les conducteurs, des tests de vision. Ça peut paraître évident, mais c'est important de le faire. Pour ceux qui sont exposés au bruit, on va vérifier quand même leur audition et vérifier qu'il n'y a pas une altération. Pour ceux qui sont exposés à certains types de CMR, souvent les gens nous parlent de radio des poumons, c'est fini. Hein. Il y a d'autres types d'examens beaucoup moins invasifs qu'on appelle des examens respiratoires fonctionnels qui nous permettent en effet de vérifier s'il n'y a pas une altération. Et nous pouvons faire aussi des ECG pour vérifier en effet, pour ceux qui ont une pénibilité ou une charge, on va dire, qui peut toucher, qui peut aggraver des problèmes cardiaques, nous faisons aussi en effet des tests. Donc tout ça, ça prend 45 minutes. Donc c'est fini la visite médicale qui durait 5 minutes, bonjour, au revoir et je vous donne le papier. Non, c'est vraiment un examen approfondi. Ce sont des questions en effet que nous posons, que nous collectons, qui nous permettent en effet de pouvoir les mettre les uns à côté des autres par rapport à l'ensemble des salariés que nous avons voir, pour voir en effet des tendances et pour ensuite par rapport à ça alerter l'employeur sur des signes qui sont prégnants ou majoritaires en fonction de ces questionnaires. Ça, c'est pour la partie suivie.
Toutes ces notions, je vous l'ai dit hors plateau, et c'était plutôt flou. Hein. Pourtant, j'ai 56 ans, mais là, ça me permet, et j'espère que ça permettra aux auditeurs de mieux comprendre le fonctionnement de votre organisme.
Le rôle et la finalité. Donc, la prévention, ça veut dire qu'on va dans les entreprises. Santé au travail, c'est qu'on assure ce suivi quand même de l'état de santé. Donc, c'est l'addition des deux, et c'est pour ça qu'on s'appelle ainsi. Et c'est vrai que notre rôle, même si bien sûr on est en lien avec la santé publique en tant que telle, mais qui est beaucoup plus large, la santé publique, c'est son état de santé à soi personnel. Et il est important de suivre les campagnes, bien sûr, d'information de la santé publique. On ne fait pas du dépistage, surtout, on fait du dépistage lié au risque professionnel en tant que tel, parce que c'est là où ensuite l'employeur va pouvoir ou pas agir en tant que tel.
Alors, par exemple, quelle campagne de sensibilisation vous menez actuellement ?
Alors là, actuellement, c'est le sujet de la chaleur. Il faut savoir en plus que depuis l'an dernier, les réglementations ont changé. Alors là, je rappelle que, puisqu'on fait partie du réseau Présence PACA Corse, comme vous l'avez introduit dans le jingle, qui est l'association en fait régionale qui recoupe l'ensemble des services, nous mutualisons bien sûr des services et nous proposons des webinaires. Donc hier, il y avait un webinaire justement dédié sur la chaleur. Donc il y a un replay qui existe autant sur Présence PACA Corse que sur la newsletter qui normalement passe aujourd'hui pour l'ensemble de nos adhérents. Donc je vous invite à regarder ce replay si vous êtes concerné par ce risque de chaleur. Et il y a ensuite l'autre webinaire qui va intervenir le 2 juillet. Donc pareil, vous l'avez sur l'information qui va passer ce jour. Là, un peu plus ciblé sur les rayons ultraviolets, notamment, qui sont aussi liés pour comprendre en effet les effets, la réglementation et les mesures de prévention et de protection sur ce risque-là.
Alors la société évolue et évolue très vite. Il y a eu par exemple le Covid avec le télétravail. Alors est-ce que le télétravail justement a-t-il changé les problématiques de santé au travail ?
Alors comme toute chose, rien n'est blanc, rien n'est noir. Il y a toujours un côté positif et il y a toujours un effet éventuellement pervers. C'est comme les postures en tant que telles. Le télétravail a pu apporter des solutions. Au-delà, bien sûr, de la pandémie en tant que telle. Le télétravail, il faut qu'il soit pensé. C'est un mode d'organisation qui doit être pensé au niveau de l'entreprise, qui permet notamment, alors c'est vrai que pour certains salariés, c'est éviter des fois des déplacements, des trajets domicile, lieu de travail, avec aujourd'hui la question de l'essence, c'est sûr que c'est pour un avantage, mais pour l'employeur en termes de risques qu'on appelle organisationnels, ça permet de limiter des fois des interruptions. Souvent quand on est en travail, en contact avec ses collègues, on a souvent planifié quelque chose qu'on voudrait faire de la journée, mais on a les interruptions, on va dire du jour, les collègues, etc., les sujets, et ça permet en effet une meilleure concentration en tant que telle en termes de travail. Ça permet aussi un petit peu plus d'autonomie dans son organisation en tant que telle, et on reviendra peut-être sur une question plus tard. Après, attention, comme toute chose, il y a des effets qui peuvent être compliqués. Le télétravail à 100%, en tout cas nous, ce qu'on avait pu mesurer lors du Covid, était assez mal vécu en tant que tel. Parce qu'il ne faut pas oublier la coupure du lien social.
C'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'ai l'impression que, voilà, il faut faire attention à
ça
aussi.
Il faut bien le doser. Et en effet, on a certains employeurs qui sont vigilants à ce genre de choses. Donc, il y a un jour, deux jours de télétravail, très bien. Après, c'est une question d'organisation, d'autonomie ou pas. Il y a des métiers qui ont toujours fait du télétravail. Je reviens sur les commerciaux ou sur les VIP, qui ont toujours eu ce genre de mode de fonctionnement en tant que tel, mais qui est adapté à un certain type de métier. Mais souvent, en fait, de ne pas être dans le lieu de l'entreprise, on a encore des êtres humains. On a besoin de se voir, même s'il y a bien sûr des outils technologiques collaboratifs qui permettent de faire du distanciel. La qualité des fois des échanges n'est pas toujours bon. Une visio, c'est bien. Ça permet justement de faire des choses rapides, efficaces en tant que telles. Mais on a vu en effet que du télétravail à 100% peut générer en fait des problèmes organisationnels, des difficultés de communication, des difficultés finalement aussi d'intégration dans un collectif de travail. Et voilà, donc il faut trouver la juste mesure. C'est vrai qu'aujourd'hui, le télétravail peut être une solution aussi d'aménagement, de maintien en emploi, comme j'évoquais, et le médecin en effet peut le prescrire, que ce soit temporaire, pour faciliter la reprise progressive d'un salarié, par exemple, qui ne peut pas conduire pour des problématiques de santé temporaires. Donc, c'est des solutions qui permettent aussi de reprendre des fois plus tôt le travail. Ce sont donc des solutions. Mais il faut le faire, voilà. Il faut vraiment que ce soit concerté en fonction de la situation de l'entreprise.
Alors, Madame Magnan, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes directrice générale de l'ASMT 04. Quels nouveaux risques professionnels émerge aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut constater?
Alors, quand on dit nouveaux risques, il y a deux choses. Soit des choses nouveaux qu'on ne connaissait pas, et là, on va avoir tout le champ des nanoparticules, par exemple, et des perturbateurs endocriniens. Donc ça va être un sujet qu'on va aborder au mois de juillet, justement, pour lequel il y a de nouveaux produits dont on ne connaît pas forcément les effets sur la santé. Il y a aussi l'introduction de nouvelles technologies. Alors l'IA est peut-être des outils absolument phénoménales. On sait que ça va révolutionner des choses, qui peuvent créer des avantages. Mais comme toute nouvelle technologie, il va falloir en effet évaluer aussi les risques que cela peut engendrer en tant que tel sur le perte de peut-être de sentiment de contrôle, de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la relation humaine. Ça interroge véritablement sur le travail et certains types de métiers, notamment sur la relation client. Et ensuite, il y a des sujets connus, mais qui aujourd'hui, en fait, augmentent. Prenons l'exemple du sujet de la chaleur, qui, certes, c'est un risque, j'allais dire, connu, mais qui, par contre, en volume, est en train d'augmenter, puisqu'on voit bien que les phénomènes caniculaires sont de plus en plus tôt, sont de plus en plus sur l'ensemble de la France, même si nous, dans le Sud, on avait un tout petit peu plus l'habitude, mais c'est beaucoup plus tôt, beaucoup plus long. Et donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, des réflexions sur cette question de changement, en fait, climatique et des risques, en effet, liés aux températures dites extrêmes, c'est-à-dire forte chaleur ou température négative l'hiver en tant que tel. Voici à peu près les trois gros sujets de demain.
Alors, quels sont, par exemple, les principaux défis auxquels l'ASMT doit faire face pour demain? Et comment vous voyez évoluer la santé au travail dans les prochaines années?
Alors, il faut, un, s'adapter à ces nouveaux risques. Deux, il faut s'adapter aussi aux nouvelles formes d'organisation aussi en tant que telle.
C'est-à-dire?
Vous avez parlé du télétravail. De plus en plus, certaines entreprises se sont lancées ce qu'on appelle dans les flex-office. Voilà, j'ai plus forcément un bureau attribué, etc. Donc, il faut aussi s'adapter à ce genre de choses. Il faut s'adapter, en effet, au niveau de technologie. Aujourd'hui, de plus en plus, les services que proposent les entreprises, c'est dématérialisé, c'est sur des plateformes. Donc, l'introduction, en effet, j'allais dire, du numérique, de l'informatique, qui a ses propres effets en avantages et en inconvénients, il faut s'adapter. Il faut, nous, bien sûr, continuer à innover en tant que tel. C'est vrai qu'on développe la téléconsultation, on est en train de lancer ce mois-ci ce qu'on appelle le portail salarié, ce qui permettra aussi aux salariés de disposer, d'informations, d'accéder en tant que tel à des ressources, à pouvoir disposer aussi de son dossier, de ses attestations portables, quel que soit le lieu en tant que tel. Et c'est vrai qu'on doit aussi faire face à comment on s'organise avec... malheureusement, moins de médecins du travail.
Il y a ça aussi, voilà.
Donc, c'est là où, en effet, nous avons, depuis quelques années, depuis deux ans, essayé d'inventer de nouvelles formes, en effet, de travail. On a bien sûr augmenté le nombre d'infirmiers en santé au travail, qu'on continue à développer leurs compétences en tant que telles. Renforcer, bien sûr, la prévention. Je rappelle, prévention et santé au travail, puisque le but du jeu, c'est d'agir dans l'entreprise, donc avec de nouvelles compétences beaucoup plus expertes en tant que telles. Trouver des formats beaucoup plus hybrides. si en effet il y a peut-être moins de médecins, quelles sont les formes qu'on peut faire et qu'on a dû mettre en place, notamment sur le secteur de la vallée de l'Ubaye, même si, bien sûr, le présentiel, c'est toujours bien, mais on a essayé de trouver des solutions pour pallier à ces difficultés. Avec une partie, en effet, le salarié est toujours vu physiquement, où on lui fait faire des examens sur site dans notre centre de Barcelonnette et de pouvoir, en effet, avoir, certes en distanciel, mais au moins accès, en effet, à un médecin pour pouvoir avoir le bon diagnostic et les bons conseils de prévention en tant que tel. Donc, c'est aussi ce tournant, j'allais dire, de l'innovation. Il y a aussi un autre sujet, puisqu'on n'a pas forcément parlé, de comment on sensibilise les salariés.
Oui.
Puisque le but du jeu, et c'est là où je vais vous parler des enjeux aussi de demain, au-delà de l'accompagnement que nous faisons des entreprises, nous proposons aussi des actions de sensibilisation. Alors pourquoi on dit sensibilisation et pas formation ? Souvent, les salariés connaissent très bien leur métier. Ils ont souvent connaissance, bien sûr, des risques auxquels ils sont. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît un risque qu'on change. Donc les sensibilisations, le but du jeu, c'est d'amener à changer de comportement.
Une prise de conscience.
Oui. Parce que souvent, quels sont les freins finalement à la prévention ? Si je prends par exemple le risque routier, où on se dit, puisque en plus on conduit à titre personnel, on conduit à titre professionnel, pourquoi malgré tout il y a des fois certains comportements qui vont augmenter le risque d'accident ? Mais souvent on est dans un automatisme. Souvent, on peut avoir aussi un sentiment d'invulnérabilité. Ça n'arrivera qu'aux autres, ça ne m'arrivera pas à moi en tant que tel. On peut aussi souvent sous-estimer en fait le risque. Donc au travers de ces ateliers, de ces sensibilisations, en utilisant de nouveaux outils, en ayant une approche beaucoup plus ludique avec des jeux de cartes ou aujourd'hui aussi la réalité virtuelle, on amène en fait à une prise de conscience qui permet de parler du risque en tant que tel. C'est-à-dire, c'est comment rendre réel quelque chose qui est abstrait. Parce qu'en risque, on va dire un jour, c'est dans 10 ans que tu risques d'avoir une problématique, c'est trop loin, c'est pas aujourd'hui.
Et puis la problématique sera là. Donc, si y a une
et la problématique sera à terme. Donc quand si quelque chose éviter. Est un petit peu trop loin, on n'a pas forcément envie de changer de comportement en tant que tel. Donc je vais prendre l'exemple de la réalité virtuelle, puisqu'il y a deux jours, on était à une assemblée générale de la CAPEB et on l'a testé. Et sur des modules qui étaient en effet adaptés au BTP, il y avait des jeunes qui connaissaient pourtant le risque. Ils ont pris le module. Ils n'ont eu que 56%, j'allais dire, de bonnes réponses, parce qu'en fait, c'est de dire, on a le sentiment de croire qu'en fait, on sait. Mais dans la réalité, notre comportement, on ne fait peut-être pas ce qu'il faut. Donc le fait d'utiliser ces nouveaux outils dans nos actions de sensibilisation permet en fait une prise de conscience, et donc là, plus facilement de parler. Parce que si on n'utilisait pas ces outils pour faire la prise de conscience, le salarié va dire, mais je connais mon métier, ça fait 10 ans que je le fais, je connais très bien les mesures de sécurité, vous n'avez pas besoin de me redire, mais réapprendre. Et c'est ça qu'on essaye en fait de travailler, c'est des fois ce sentiment de surmaîtrise, de sous-estimation, qui permet au travers de ce jeu de prendre conscience à finalement, dans la réalité entre ma théorie et ce que je fais, de pouvoir ensuite aborder en fait ces sujets-là.
Oui, je vous dirais, je fais un parallèle qui n'a rien à voir, mais c'est comme pour chaque citoyen. Nous avons eu notre permis à 18 ans, et puis après, 20 ans après, on a peut-être des automatismes, on fait peut-être des choses. Voilà, parfois, c'est bien de recadrer. Donc, si par exemple, je travaille dans le BTP et que je souhaite avoir accès à ces modules, je peux vous contacter ou...
Tout à fait. D'accord. En effet, alors, on a plusieurs scénarios. On travaille sur plusieurs sujets de sensibilisation. Oui. En fait, on s'adapte en fait aux besoins de l'entreprise. Donc, si le sujet de l'entreprise, c'est la prévention des troubles musculo-squelettiques, comme on a évoqué, qui est notamment la manutention, nous avons en effet des outils, des jeux qui vont être adaptés. Si c'est sur le risque biologique aussi, puisqu'il ne faut pas oublier tout le corps médical que nous accompagnons, des ambulanciers, des cliniques ou des professions de santé au niveau des EHPAD, nous faisons en effet des outils spécifiques, que ce soit le risque routier, que ce soit aussi pour le BTP sur les risques de chute de hauteur ou du risque chimique. On a plusieurs outils en fait qui permettent. Donc en effet, oui, l'employeur, ça fait partie en fait du forfait de la cotisation et on organise en fonction des disponibilités de l'employeur.
Et autre question, est-ce que le salarié, par exemple, doit passer par l'employeur et lui signifier qu'il voudrait un rendez-vous avec vous ou il peut venir directement vous voir ?
Alors pour
comment ça se passe ?
Pour les actions de sensibilisation, alors on fait...
Oui, je parle pour les actions de sensibilisation.
Là, c'est avec l'employeur. C'est-à-dire, un, il faut que ça réponde à son besoin, à sa stratégie. On ne fait pas que pour un salarié, mais pour tous les salariés qui sont exposés au
de l'entreprise,
oui. En tant que tel. Voilà, donc on le fait dans l'entreprise. C'est un peu comme si un salarié exprimait un besoin de formation. L'entreprise va voir si c'est prioritaire ou pas prioritaire et de voir bien sûr si ça concerne, j'allais dire, plusieurs. Donc en effet, le salarié qui souhaiterait d'utiliser j'allais dire aussi pour les entreprises qui sont dotées d'un CSE dans un plan d'action que doit mener de toute façon l'entreprise dans l'évaluation de ses risques professionnels.
Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux entreprises et aux salariés s'il y avait un message à faire passer?
Oui. Alors, c'est vrai que souvent, la santé au travail, déjà première chose, il faut savoir que les services de prévention et de santé au travail, on a énormément changé. Donc l'image que je pouvais avoir il y a 10 ans ou 20 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses en tant que telle. De rappeler en fait qu'on est le conseiller de l'employeur et du salarié. Souvent, les salariés disent « ouais, vous êtes pro-employeur » et les employeurs nous disent « vous êtes pro-salarié ». Non, en fait, on conseille les deux. On apporte une pierre à l'édifice. Ce que des fois l'employeur ne connaît pas, ne maîtrise pas, c'est comment fonctionne un corps humain dans une organisation, en fonction, quels sont les effets sur la santé en fonction de certaines choses qui peuvent paraître totalement habituelles ou économiquement nécessaires, comme le travail de nuit. Il faut comprendre comment le corps fonctionne par rapport à ça. Donc, on est un conseiller, en fait, des deux. Alors, je sais aussi que les employeurs... Après, tout se base sur une question de confiance. On n'est pas là pour dire « c'est pas bien, c'est pas le but du jeu ». C'est d'aider, en fait, à ce que l'employeur et autant le salarié font chacun un pas. Le but du jeu, c'est de dire « ok, quel premier pas vous pouvez faire ?» Parce qu'en effet, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, on est là pour vous conseiller. C'est sûr qu'il y a des fois, on va vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Ben, c'est facile de ne pas voir, de ne pas entendre, etc. Et de se dire « parce que je ne suis pas au courant, ça n'existe pas ». Nous, malheureusement, en effet, on est là pour vous dire « attention, il y a des choses qui existent ». Après, que vous pouvez pas tout faire, on l'entend et on le comprend, mais notre rôle est là de vous donner justement vos angles morts. Et ensuite, troisième message, on échange, on discute, c'est un dialogue. On peut comprendre les contraintes. La question, c'est qu'on connaît les contraintes du collectif des travailleurs et les contraintes des salariés. La question, c'est quelle solution peut émerger ensemble pour faire avancer progressivement les conditions de travail, autant dans l'intérêt des salariés que dans l'intérêt de l'employeur, pour une meilleure performance et finalement conserver des compétences acquises de ses collaborateurs.
Lorsque vous détectez quelque chose ou que justement vous pointez les angles morts, est-ce qu'après c'est une obligation à l'employeur de justement de pallier ces angles morts ou pas ?
En effet, les préconisations du médecin du travail, alors là on va être un petit peu plus sur un côté un peu juridique, l'employeur a une obligation de santé et sécurité et de santé mentale et physique de ses salariés. Voilà, comme il a un pouvoir de direction, c'est lui qui fournit les conditions de travail, donc il est responsable des conséquences et il a une obligation de moyens renforcés. C'est-à-dire que ce n'est pas « je vais faire », c'est « est-ce que tu as fait ?». Voilà. Concrètement, quelles sont les actions que tu as définies, que tu as menées réellement. Donc forcément, les préconisations du médecin du travail le renvoient sur cette obligation de sécurité. Après, il peut les échelonner, il peut prioriser en tant que tel. Et si en effet, il ne peut pas faire, il faut qu'il motive en effet au niveau du médecin. Pourquoi ? C'est là où après, on peut éventuellement échanger pour réadapter, pour être sûr que la solution qui est proposée. Dans des cas de danger immédiat ou imminent, là par contre, voilà, le médecin a beaucoup moins de marge de manœuvre pour pouvoir dire on peut essayer de discuter en tant que tel. Donc en effet, les préconisations, que ce soit dans nos rapports, suite à des diagnostics que nous faisons ou à l'issue des visites, en effet, il y a une certaine forme d'obligation pour l'employeur.
Oui, c'est vraiment
ses conditions de travail.
Au cas par cas. Concernant, Madame Magnan, le coût de cette médecine du travail.
Oui, parce que souvent, dans les idées reçues, de dire la médecine du travail, c'est un coût, c'est beaucoup plus cher qu'un médecin de ville. Donc je rappelle aussi, c'est trois quarts d'heure aussi une visite, et pas des fois un quart d'heure. Et ce qui est normal, un médecin traitant, on lui pose une question, il doit répondre à cette question. Donc c'est vraiment, alors que nous, on fait vraiment un scan, un spectre assez large. Donc l'ensemble de cette offre, de ces trois piliers, c'est un forfait en effet annuel qui est défini par une cotisation par salarié. On nous dit toujours que c'est très cher. Je rappelle qu'en 10 ans, on a pris 2 euros. C'est moins de 2% d'augmentation. Donc c'est vrai quand aujourd'hui on voit l'inflation du mois d'avril 2026, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'activités économiques qui peuvent en effet dire qu'on n'a pris que 2 euros dans son tarif unitaire en 10 ans en tant que tel, qui représente moins de 2% en fait d'augmentation sur une période de 10 ans. Je rappelle aussi, pour amener un petit peu, puisque il y a quelques jours, il y a eu un article en effet de presse du milieu économique qui s'interroge justement sur le coût du travail qui peut être pénalisant sur un redressement économique de la France. Je rappelle aussi que le coût de la médecine du travail par rapport au SMIC, donc juste lié au SMIC, et donc le minimum en tout cas réglementaire, c'est 0,5% du salaire. Comparé à la moyenne des taux d'accidents du travail, qui est une moyenne puisqu'en fonction de certaines activités, c'est différent, c'est 2,08. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup du coût des cotisations, du coût de notre modèle social. Donc, je ramène aussi la prévention aujourd'hui, c'est que c'est moins de 0,5% du salaire brut par rapport à d'autres types de, de systèmes.
Lors d'une consultation, le salarié, est-ce qu'il peut être reçu essentiellement par un médecin ou est-ce que ça peut être un infirmier? Est-ce que les coûts sont différents et pourquoi?
Non, c'est un forfait global.
Un forfait global.
Parce que finalement, c'est un forfait qui fait que j'ai accès en fait à un abonnement. Voilà, c'est comme si je souscris un abonnement à une chaîne de télé. Si je ne regarde pas les émissions, bah forcément,
donc,
j'ai le sentiment.
Ça sera facturé de la même manière que ce soit un infirmier,
c'est un
médecin.
C'est un forfait. C'est-à-dire que peu importe le nombre de visites, que ce soit une visite, 10 visites, ça pour un même salarié, c'est pareil. Qu'on intervienne en entreprise pour 1 heure, pour 4 heures, pour 3 jours, c'est un forfait. Donc c'est ça, en fait, il faut penser à nous utiliser justement, puisque ça fait partie du forfait en tant que tel. Donc oui, il y a des visites faites par les médecins, des visites faites par les infirmiers en tant que tels, qui sont formés, spécialisés en santé au travail, je rappelle. Ils ont une formation complémentaire de plus de 300 heures quand même, il faut le préciser. Je rappelle aussi que 80% des salariés qu'on suit vont bien.
C'est bien de le notifier aussi.
Vont bien en tant que tel. Après, pour être plus précis, globalement, on va dire que c'est 33% des salariés qui ont une problématique de santé et qui se plaignent en tant que tel. Donc, pour tous ceux qui vont bien, nous, on assure un suivi, on assure un scan. Et c'est vrai que le médecin va être beaucoup plus focalisé sur les dossiers, en fait, problématiques. C'est comment, en fait, au regard de la pénurie aussi de médecins, on focalise son expertise sur les sujets qui nécessitent une complexité. Mais pour assurer un suivi régulier comme sorte de baromètre, pour 70% en effet des salariés que nous suivons, en effet, nos infirmiers sont tout à fait à même de pouvoir suivre. Mais il y a aussi des entretiens qui peuvent être faits par la psychologue du travail, par notre chargé de maintien en emploi, toutes les actions que nous pouvons faire de nos ergonomes, de notre ingénieur ou de nos techniciens. Donc tout ça fait partie finalement, en fait, du forfait qui, je rappelle, n'a pris que 2 euros en 10 ans.
2 euros en 10 ans.
Alors, en effet, pour finir, j'espère que ça a été clair pour les auditeurs, justement, à quoi on sert.
Je crois que oui.
Quels sont nos piliers?
Je crois que c'est bienvenu aussi.
Nos méthodes de travail. Et de rappeler, en fait, que, comme je l'ai dit en introduction, on est une association, on est un groupement d'employeurs. Donc, on a parlé là des cotisations. Donc, c'est vrai que c'est les employeurs qui financent ce modèle paritaire, dont la présidence est toujours assurée par justement un représentant des employeurs. Aujourd'hui, donc, Marc Ségard, chef d'entreprise de la région de Fort-Calquier. Mais c'est aussi la contribution au fonctionnement. C'est-à-dire, en fait, ce système associatif, pourquoi il est donné? Alors, sauf si on ne veut plus ce type de modèle encore paritaire, c'est moi, en tant qu'employeur, je peux contribuer au fonctionnement, c'est-à-dire définir quels sont les objectifs pour répondre à mes obligations d'employeur en santé et sécurité de mes travailleurs, quels moyens j'y mets et combien finalement je finance. Donc je rappelle que c'est un modèle normalement participatif. Nous avons notre assemblée générale qui a lieu donc le 25 juin. On fait 2 assemblées générales par an au mois de juin et au mois de décembre. Au mois de juin, pour présenter les comptes, présenter nos actions, c'est important aussi de rendre compte de ce qu'on a fait, des cotisations, puisque nous gérons l'argent des entreprises. Il est important d'avoir une gestion saine, efficace, pour eux et répondre à leurs obligations, et à la fin de l'année pour présenter justement le budget et les prochaines cotisations. Je rappelle que justement, cette assemblée des adhérents permet justement ou de poser des questions ou aussi d'émettre des suggestions d'amélioration ou justement nous faire un retour aussi sur leur propre expérience en tant que telle. Donc je rappelle cet événement parce que nous sommes en effet une association de l'ensemble des entreprises privées de nos départements.
Madame Magnan, merci pour cette première émission. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent écouter ou réécouter l'émission en podcast sur notre site internet fréquencemistral.com, onglet Manos, qu'il y aura les coordonnées de l'AISMT 04. Rendez-vous le 16 juillet en direct sur notre antenne et puis après en replay sur notre site. Quel sera le thème de la seconde émission, Madame Magnan?
Alors là, c'est d'essayer de rendre les choses un petit peu plus concrètes. C'est vrai qu'on a balayé globalement l'émission de manière générale, même s'il y a eu quelques exemples. Là, c'est vraiment parler un métier très important, qui est le métier de la coiffure en tant que tel, et de parler justement des nouveaux risques émergents. Donc là, on fera vraiment un focus sur qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, vraiment très ciblé sur un type de risque et sur un type de métier qui, j'espère, rendra les choses beaucoup plus concrètes et que ça pourra en effet intéresser, en tout cas, ceux qui sont sur ce secteur d'activité.
Merci, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Partenaire de Fréquence Mistral, AISMT 04 du réseau Présence PACA Corse, votre partenaire santé au travail, présent à vos côtés.